Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil. Vous écoutez Le Monde Changé. Il est 8h.
À partir du moment où vos données, elles sont stockées dans un élément physique, qui n'a pas de batterie, qui n'est connecté à aucun serveur, aucune base de données, rien, ça rend physiquement impossible une attaque.
Quand une petite carte de plastique bloque toute possibilité d'espionnage informatique. Une invention made in France, s'il vous plaît. C'est à la une ce matin, alors que les cyberattaques sont une menace grandissante pour les États comme pour les entreprises. Comment faire des tests salivaires dans les crèches à des enfants de quelques mois seulement qui ne savent pas encore cracher? Travaux pratiques dans ce journal. Et puis, eux vont transpirer ce soir et ce sera en direct sur Europe 1. Les rugbymen français vont courir après les points pendant 80 minutes face à l'Écosse. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité est sur le point de découvrir un vaccin universel contre les coronavirus. El Bachir Ben Mohamed est un immunologiste né au Maroc, passé par la France, installé aux États-Unis et ce matin il est sur Europe 1. Et c'est une prouesse parce qu'il est très rare dans les médias.
Et c'est juste après ce journal, c'est à 8h15. A tout à l'heure Sonia, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Une explosion des cyberattaques l'année dernière, reconnaissent les autorités françaises. Des pirates qui s'en prennent à tout ce qui est sensible, des hôpitaux aux entreprises. Et le marché mondial de la cybersécurité qui dépasse déjà les 100 milliards de dollars. Il faut dire que le but, le principe de tout pirate informatique, c'est de trouver une faille, la faille dans le système.
Aude Leroy, bonjour.
Bonjour.
Voilà une innovation française qui vient d'être primée au Salon des Inventions de Genève. Et vous pouvez nous expliquer en exclusivité sur Europe 1, comment fonctionne ce système de communication ultra sécurisé?
Oui, il faut un téléphone, une application et deux cartes, format carte bancaire. Lorsque vous écrivez un message, il suffit ensuite de passer votre carte derrière le téléphone et elle chiffre immédiatement et sans contact votre texte, vos photos, vos vidéos. Vous les envoyez par mail ou par SMS, par WhatsApp ou par Messenger. Et pour les lire, votre correspondant n'aura qu'à passer sa propre carte qui a la même clé de chiffrement derrière son téléphone. Impossible donc pour les hackers de les intercepter, ces messages, et de les voir. En fait, c'est une sorte de géotrouve-tout français de 56 ans qui a inventé ce dispositif. Il s'appelle Jacques Gascuel.
À partir du moment où vos données, elles sont stockées dans un élément physique, qui n'a pas de batterie, qui n'est connecté à aucun serveur, aucune base de données, rien, vous êtes totalement intraçable. Deuxième élément, c'est que les données sont chiffrées avant d'utiliser les systèmes numériques. Ce qui veut dire que quand vous allez m'attaquer, c'est déjà trop tard. Et tout ce système-là fait que ça rend physiquement impossible une attaque.
Alors on comprend que la clé elle-même n'est pas connectée à Internet et donc forcément ça rend impossible toute attaque. Alors Aude, ça se dessine à quel public?
Eh bien dans un premier temps, aux administrations, services de renseignement, ambassades, hôpitaux, à l'armée. C'est un outil idéal pour transmettre des ordres, des plans à des soldats infiltrés par exemple derrière des lignes ennemies. Ce sera aussi très utile aux entreprises qui veulent sécuriser leur transfert de données. Et tout ça pour un prix raisonnable, 1000 euros pour deux cartes et il sera possible de les précommander début mai.
Aude Leroy, spécialiste cybersécurité d'Europe 1, on le redit, innovation française qui méritait d'être saluée. Vous retrouverez les détails bien sûr sur europe1.fr.
On ignore par quels moyens sécuriser. Forcément, Emmanuel Macron a discuté avec ses homologues européens hier lors du sommet consacré au vaccin, mais c'est en tout cas face caméra qu'il a pris la parole tard dans la soirée, justifiant sa stratégie sanitaire, en particulier la décision prise il y a deux mois, souvenez-vous, quand l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Portugal étaient reconfinés. Mais pas nous.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays? Non. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure. Et il n'y a, à mes yeux, aucun tabou.
Aucun tabou, dit le président, alors que certains médecins, on l'entendait dans le journal de 7h, craignent aujourd'hui de devoir choisir entre des patients. Il parle de sacrifice, ce sont des témoignages à retrouver sur europe1.fr.
Et justement, les confidences d'une ministre de retour de l'hôpital après le Covid.
C'était angoissant. Vous avez l'impression que votre corps se détraque, témoigne Elisabeth Borne. Vous vous demandez si les choses vont revenir à la normale. La voilà à nouveau à son bureau du ministère du Travail, après quelques jours sous oxygène. Dans le journal Le Parisien ce matin, elle dit ne pas comprendre où elle a attrapé le variant sud-africain du virus qui est peu présent en Île-de-France.
Hier, Olivier Véran a appelé les étudiants en santé et les jeunes retraités des professions médicales à participer à la vaccination.
Oui, dentistes et vétérinaires devraient en être aussi, soit au total 250 000 vaccinateurs de plus. Et après les tests Covid dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, voilà que les crèches s'y mettent aussi. C'est une première en France et ça se passe dans le département de la Moselle.
Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour.
Protocole inédit dans toutes les crèches publiques. Comment ça va se passer ?
Eh bien, le prélèvement se fera à la maison. Les parents pourront récupérer à la crèche un kit du laboratoire Espace Bio dirigé par Charles Pax.
Vous ouvrez le sachet, on enlève le bouchon. Donc, vous êtes parent, soit votre enfant s'est craché, vous avez de la chance. Un enfant de 3 mois, comment lui expliquer qu'il faut baver quelque dans le tube, quoi. Donc c'est, non, mais là, c'est obligatoire d'ouvrir et de récupérer la pipette. Et avec la pipette, on vient la placer sous la langue. Alors on a de la chance, plus les enfants sont petits, plus ils bavent.
Voilà, objectif, 1 millilitre de salive. Isabelle Lux est l'adjointe à la petite enfance à la ville de Metz.
Quand on a un tout petit, on sait bien que c'est un petit trésor et qu'il faut faire attention. Et du côté des professionnels aussi, elles sont rassurées parce que le gros souci, quand on accueille le petit le matin, il y a d'autres choses à faire que de faire la queue leu-leu pour faire un test.
Début de l'opération dans 10 jours, devant les crèches de Metz, les parents sont divisés.
Tu vas cracher dans un tube pour le test, d'accord ? Pour le petit virus.
Tu sais cracher toi ?
Oui.
Le mien, il est tout petit, donc je sais pas trop bon, si ça peut aider à combattre ce virus et qu'on sort de cette situation.
Vous imaginez de le faire cracher dans un
ah
tube ?
Ah bah lui, il crachera pas hein.
Les communes de Nantes, de Versailles et aussi l'association des maires de France ont contacté les équipes mosellanes pour s'inspirer de leur protocole.
Arthur Mbaché, notre correspondant d'Europe 1 dans la région Grand Est. Et puis c'est l'autre virus qui va dominer l'actualité du week-end, le sida. La solidarité aussi, les progrès scientifiques contre la maladie, puisque c'est aujourd'hui le début du SIDAction, opération cruciale aussi de pédagogie, quand on voit que selon un sondage IFOP, un tiers des jeunes estiment être mal informés sur le VIH. Rendez-vous sur sidaction.org pour faire un don.
Cette scène ahurissante, vécue hier au conseil régional d'Occitanie, qui était en pleine délibération.
Oui, vous allez l'entendre, la présidente socialiste de la région, Carole Delga, est à ce moment-là au micro.
Dans les prochains jours.
Elle s'interrompt. Vous entendez les cris dans la salle. Action française, le nom de ce mouvement d'extrême droite. 8 de ses militants viennent de pénétrer dans le bâtiment pour déployer une banderole où l'on peut lire « islamo-gauchiste, traître à la France ». Que se passe-t-il précisément ? Eh bien, Carole Delga le raconte à Claudia Bertram pour Europe 1.
La porte de l'hémicycle s'est ouverte brutalement et j'ai vu mes agents de sécurité se battre avec des personnes de façon violente. Malheureusement, depuis 5 ans, je suis la cible de nombreuses actions violentes de l'extrême droite, que ce soit de la part d'élus du Front National, avec des tentatives d'intimidation physique ou des insultes. Je reçois également de nombreuses lettres anonymes de menaces de mort. Ce sont les méthodes de l'extrême droite qui sont malheureusement de plus en plus répandues.
Carole Delga qui compte porter plainte. Cette intrusion a été dénoncée par Emmanuel Macron, mais aussi par le Rassemblement National. Cette polémique entre la mosquée de Paris et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, après que celle-ci a parlé sur LCI de la charte des principes pour l'islam de France.
Pourquoi on a fait cette charte ? Parce qu'elle est engageante. Et l'idée, c'est pas de mettre sa signature, c'est de dire comment on s'engage pour l'égalité femmes-hommes, pour la lutte contre l'homophobie. Est-ce que ça veut dire que dans les prêches, on considérera que deux hommes ont le droit de s'aimer, de se marier, comme le disent les lois de la République française ? C'est cela que dit cette charte. Et on voit là que l'une des vertus de cette charte, c'est justement que chacun se découvre.
Des propos qui ont fait bondir le recteur de la mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, qui répond à la ministre, cette charte est notre affaire et je dénie à un ministre la capacité de dicter les prêches des imams.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Joe Biden, 78 ans, qui se projette déjà en 2024 pour un deuxième mandat.
Et puis 15 Français, 26 ans de moyenne, et là aussi des rêves de victoire, mais dès ce soir, face à l'Écosse, vous l'avez deviné, on va parler rugby.
A tout de suite. 8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Il a attendu 2 mois avant de se prêter à l'exercice. Joe Biden a tenu la première conférence de presse de son mandat. 30 journalistes répartis dans une grande salle de la Maison Blanche et une heure de questions-réponses.
Avec nous depuis New York, bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Joe Biden a commencé par vanter ses premières mesures.
Oui, notamment son plan de relance de l'économie. Les premiers chèques sont arrivés sur les comptes en banque des Américains. Joe Biden a également annoncé un nouvel objectif pour la vaccination. 200 millions de doses injectées d'ici fin avril. Aucun pays au monde ne s'est approché de ce que nous faisons. Je peux dire au peuple américain, l'aide est là et l'espoir est en route. Mais Joe Biden a surtout dû s'expliquer sur la vague migratoire à la frontière mexicaine, des centres de rétention surchargés et des conditions d'accueil inacceptables selon le président. Il refuse toujours de parler de crise et renvoie la responsabilité à Donald Trump. Cela se produit chaque année. Nous renforçons les capacités d'accueil qui auraient dû être maintenues et que Trump a démantelées. Ça va prendre du temps. Et pour la perspective d'une nouvelle candidature en 2024, la réponse est oui, dit Joe Biden, mais il confie n'avoir jamais été capable de planifier 3 ans et demi, 4 ans à l'avance. Joe Biden aurait alors 82 ans et cette nouvelle victoire, il espère l'emporter avec Kamala Harris à ses côtés.
Merci Alexis Guillot en ligne de New York pour Europe 1.
Un carton rouge pour une voix du football.
Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score et c'est normal.
La voix de Pierre Ménès qu'on entend ici dans le célébrissime jeu vidéo FIFA, eh bien c'est fini. L'éditeur du jeu Electronic Arts stoppe sa collaboration avec le chroniqueur foot de Canal+ dès la prochaine édition et ce après les témoignages d'agressions sexuelles dont on vous parlait sur Europe 1 cette semaine. Et puis le sport, parfois ça se résume à une série de chiffres. 1 bonus offensif, 4 essais à marquer, 21 points d'avance à assurer. Le 15 de France doit réaliser cet exploit ce soir face à l'Écosse pour gagner le tournoi des Six Nations.
Pardon. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Simon, je vous pose la question. Est-ce que les Bleus peuvent le faire ?
Ah oui, les Bleus peuvent le faire. Ils en sont eux-mêmes convaincus. Ce sera difficile, mais ils en ont le potentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant avec l'encadrement des Bleus toute cette semaine, j'ai senti un changement d'ambiance à Marcoussis, le QG du rugby français. C'est un peu comme si on avait levé une malédiction. Hein. Ça fait 10 ans que les Bleus déçoivent et perdent. Et là, pour la première fois depuis longtemps, eh bien, il y a un espoir. Tout le monde y croit, raconte Gaël Ficou, joueur le plus expérimenté du groupe.
Les années précédentes, on a beaucoup perdu. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, on gagne de nouveau. On a un titre à aller chercher ce week-end. Ça serait énorme, mais même pour les jeunes joueurs, ils ont conscience que ça fait 10 ans que l'équipe de France ne gagne pas. J'ai mangé le mauvais pain avec l'ancienne génération et donc j'ai conscience aussi que ça serait énorme pour nos supporters, pour nous, pour nos familles, parce que ça fait tellement longtemps que tout le monde attend ça.
S'accrocher à cet espoir hein, pour renverser l'Écosse, qui est une équipe extrêmement forte, attention, ça promet, d'autant que ce match va ressembler à un contre-la-montre, hein, avec un maximum de points à marquer pour les Bleus dans un temps imparti. Ce qui est sûr, c'est qu'on va frissonner, on va vibrer.
On va vibrer. Alors si tout le monde y croit, Simon Rubin, on va le suivre hein, ce match avec vous en direct et en intégralité. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h avec vous et avec Eric Blanc.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, le professeur El Bachir Ben Mohamed, une autre voix dans le discours médical, immunologiste d'origine marocaine, formé pendant 10 ans à l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, c'est en Californie qu'il travaille à un projet de vaccin universel contre tous les coronavirus. A tout de suite. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le professeur El Bachir Ben Mohamed, immunologiste aux États-Unis, qui travaille sur un projet de vaccin universel contre tous les coronavirus.
Oui, et l'entretien a été enregistré, Mathieu, il y a quelques instants, depuis la Californie, où notre invité vient d'achever une journée de recherche intense dans son laboratoire. Bienvenue à vous. Bonjour, professeur El Bachir Ben Mohamed.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien sur Europe 1. Vous êtes extrêmement rare dans les médias français et européens. Vous êtes installé aux États-Unis. Vous êtes immunologiste à la tête d'un laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire affilié à la prestigieuse Université de Californie à Irvine. Et professeur Ben Mohamed, vous êtes au centre de toutes les attentions car vos équipes et vous-même, vous progressez sur un projet de vaccin universel contre les coronavirus. D'abord, dites-nous pourquoi il est important de trouver ce vaccin universel.
Très bien. Tout d'abord, je vous remercie Sonia Mabrouk pour l'invitation. Et pour répondre à votre question, je dois d'abord dire que le COVID-19, ce n'est pas la première pandémie et ce ne serait pas la dernière qui a été causée par un coronavirus. Donc, à partir de là, il n'est pas impossible de voir dans les prochaines années ou dans les prochains 10 ans, par exemple, un COVID-25 ou COVID-27 ou COVID-30. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les leçons à prendre du COVID-19 ? Eh bien, mon laboratoire au lieu de focaliser à développer un vaccin qui va être seulement pour Covid-19, on a un petit peu anticipé les pandémies qui vont arriver les prochaines années et on a dit on va développer un vaccin universel.
Ça veut dire, professeur Ben Mohamed, que pour cette épidémie et les potentielles prochaines épidémies qui risquent malheureusement d'apparaître dans les années à venir, ce candidat vaccin que vous développez peut nous protéger.
Exact. Le dénominateur commun entre toutes les pandémies du coronavirus des 20 dernières années, c'est que les virus, ils sont tous issus de la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est ce qu'on appelle un réservoir de pathogènes. Eh bien, pourquoi ? Pour deux choses. La première, c'est que la chauve-souris, il n'a pas un système immunitaire comme nous, les hommes. La chauve-souris, il a un système immunitaire très faible. Et par conséquent, la chauve-souris, tous les pathogènes qui rentrent dans la chauve-souris, ils y restent pendant des années. Et le deuxième point, et c'est ce que moi-même j'ai appris il y a 2 ans, c'est que la chauve-souris vit 40 ans jusqu'à 45 ans. Donc imaginez un animal qui vit dans des caves et qui a un réservoir de pathogènes, y compris les coronavirus, dans lesquels ces virus-là vont vivre pendant des dizaines d'années.
Eh oui, mais donc, professeur, pardonnez-moi, ça veut dire que vous supposez que ce virus ne s'est pas échappé dans le laboratoire, qu'il n'aurait pas été fabriqué. Pour vous, il y a ce lien avec l'animal et donc en particulier la chauve-souris.
Tout à fait. Donc, il y a des études génétiques et des études phylogénétiques qui ont été faites et qui ont tracé le virus SARS-CoV-2 originaire de la chauve-souris et qui a jumpé vers l'homme par ce qu'on appelle un animal intermédiaire qui est le pangolin. Donc, le pangolin, vous savez que les Chinois, ils mangent beaucoup les animaux sauvages. Donc, le pangolin a été attiré dans un marché à poissons en Chine, à Wuhan. Quelqu'un qui l'a acheté, il s'est fait contaminer, il a contaminé sa famille. Et c'est comme ça que le SARS-CoV-2 et le Covid-19 a commencé.
Professeur Bachir Ben Mohamed, on comprend bien que vraiment l'intérêt de vos recherches et celle de vos équipes sur ce vaccin universel pour les prochaines épidémies. Mais actuellement, est-ce que votre vaccin, votre projet de vaccin pourrait potentiellement aussi lutter contre les variants existants ?
Exact, ça peut lutter contre les variants. Donc nous, on a regardé les virus qui sont parqués aujourd'hui chez la chauve-souris. Et c'est ces virus-là qui vont émerger en 2025, 2030, 2040. La question, ce n'est pas est-ce que ça va se produire. La question, c'est quand est-ce que ça va se produire. Donc on aura certainement une autre pandémie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 13 variants en total. Donc, le vaccin qu'on est en train de développer, c'est un vaccin qui n'est pas seulement focalisé sur la protéine Spike qu'on connaît aujourd'hui, parce que le vaccin AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna, tous ces vaccins-là, ils sont à base d'une seule protéine, c'est la Spike protein. Notre vaccin, il n'est pas seulement basé sur la spike protein, il est basé sur d'autres protéines. Il faut savoir que ce virus-là, il a 25 protéines. Et donc, c'est ça qu'on a utilisé pour construire notre vaccin universel.
Ce serait dans ce cas-là révolutionnaire, parce que ce vaccin universel nous permettrait finalement de nous passer de tous les autres vaccins que vous avez cités, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ce serait un vaccin, une fois pour toutes.
Exact. Donc, c'est ce qu'on espère et ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce projet-là, c'était le premier projet aux États-Unis qui a été financé par le gouvernement américain. On a reçu presque 4 millions de dollars de financement. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les essais précliniques, c'est-à-dire on a 15 vaccins candidats qu'on est en train de tester chez la souris. Donc, on immunise la souris, puis on expose la souris à des variants de coronavirus. Et on regarde lequel de ces 15 vaccins va protéger contre tous ces variants. Et donc, on va prendre le meilleur vaccin. Et c'est ce vaccin-là qui va passer aux essais cliniques, espérant fin de l'année 2021 ou au plus tard début 2022.
On a bien entendu, parce qu'on est très attentif à ce que vous dites, professeur Al-Bachir Ben Mohamed, fin 2021. Là, nous sommes dans un horizon à court terme, hein, bien sûr. C'est bientôt.
Oui. Pour la simple raison, c'est que je considère l'année 2020, c'est l'année révolutionnaire des vaccins. grâce à l'avance sur les ARN messagers, c'est possible maintenant de développer des vaccins dans 6 mois, 10 mois. Et c'est ce qui s'est passé avec le vaccin Pfizer et Moderna. Et on sait tous le résultat. Et donc, nous, ce qu'on essaye, donc, c'est qu'on a pris la même stratégie vaccinale. La seule différence, c'est que nos vaccins, ils contiennent d'autres protéines qui sont conservées entre les coronavirus humains et les coronavirus des animaux. Et on utilise la même technologie mRNA vaccine et la même technologie, les adénovirus de AstraZeneca et de Johnson & Johnson pour délivrer ces vaccins-là chez l'homme.
Alors, on l'espère tous, on a bien compris que c'est un espoir pour le monde entier. Et votre parcours, plus singulièrement, professeur Ben Mohamed, suscite beaucoup d'admiration. Vous êtes né au Maroc et à force de persévérance, vous vous êtes imposé dans ce monde de la recherche internationale. Vous travaillez aujourd'hui et vous vivez aux États-Unis. Alors au Maroc, professeur Ben Mohamed, on dit que vous êtes marocain, il y a beaucoup de fierté. Et aux États-Unis, on préfère vous présenter comme un Américain, un scientifique américain. Ça vous fait sourire ?
Ça, c'est les médias marocains qui disent ça, qui disent un Marocain qui vit à l'étranger. Alors que moi, je leur dis non, si je suis américain marocain ou marocain américain, parce que c'est la réalité. Moi, je suis éduqué en France. J'ai mon doctorat à l'Institut Pasteur de Paris. Je dois beaucoup à la France et c'est grâce à la France que je suis là aux États-Unis. Évidemment, si j'ai quitté la France, c'est parce que je n'ai pas l'opportunité que j'ai aujourd'hui aux États-Unis. Donc, je me considère un Marocain français-américain, si j'ose dire. Et j'espère que le vaccin qu'on est en train de développer va aider le monde et surtout prévenir les pandémies des années à venir.
Bien sûr, vous êtes aussi un peu français, comme vous l'avez dit, professeur Ben Mohamed. Vous avez passé quand même de nombreuses années à l'Institut Pasteur de Paris. La France, on l'a entendu à travers ce que vous venez de dire, forme d'excellents chercheurs, mais ils ne restent pas en France. Pourquoi, de votre point de vue ?
Eh bien, ça c'est vrai, c'est malheureux, parce qu'on constate, par exemple, aujourd'hui, le manque d'un vaccin purement 100% français. Malgré que c'est la France quand même qui a découvert les vaccins. Le vaccin, l'Institut Pasteur, c'est le berceau des vaccins. C'est là que le vaccin a été découvert. Et il est quand même malheureux de voir qu'on n'a pas un vaccin 100% français et qu'aujourd'hui, on est en train de solliciter d'autres pays pour délivrer les vaccins en France. Et je vois aussi qu'il y a quand même une réticence. Les gens qui se font vacciner en France, ils sont quand même, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils vaccinent 1,5 million de personnes par jour.
Par jour ?
Alors, on fait le calcul. Par jour, 1,5 million de personnes vaccinées par jour. Moi, je me suis vacciné il y a 2 mois déjà. Et donc, peut-être vers le mois de septembre, on va arriver à ce qu'on appelle herd immunity.
Oui, la fameuse collective. Immunité. Mais votre point de vue est très intéressant pour nous, professeur Ben Mohamed, parce que vous connaissez la France. Qu'est-ce qui nous manque alors ? Il y a une frilosité, ou il y a eu en tout cas une frilosité par rapport au vaccin. Nous n'avons pas trouvé notre propre vaccin tricolore. Qu'est-ce qui nous manque selon vous ? Qu'est-ce qui se manque à ce pays qui a beaucoup quand même de talent et d'atouts ?
Je pense que la France a du talent. D'ailleurs, je tiens à saluer les gens qui m'ont formé à l'Institut Pasteur. C'est grâce à eux que je suis là. Je pense qu'il y a une fuite de cerveau vers l'étranger. C'est malheureux de voir. Je ne peux pas rentrer dans la politique. Pourquoi ? Parce que je suis un scientifique. Mais je pense que le gouvernement français doit aider les chercheurs à rester en France. Parce que la France, quand même, il gaspille beaucoup d'argent à former ces chercheurs-là. Et si je suis malheureux de voir ces chercheurs-là partir servir d'autres pays, parce qu'il faut savoir que le progrès scientifique, c'est la locomotive de l'économie, c'est ça qui va aider l'économie. C'est très malheureux de voir ces chercheurs français quitter le pays pour aller travailler ailleurs.
On va conclure, professeur Al-Bashir Ben Mohamed. Et vous, plus personnellement, qu'est-ce qui vous permet chaque jour d'avancer, de progresser, de chercher, mais aussi de trouver ?
Eh bien, pratiquer la recherche, c'est très excitant. Moi, je me réveille tous les jours et je me dis qu'est-ce que je vais découvrir ce jour-là. J'espère que tout ça va aboutir à un vaccin universel pour aider l'humanité.
Merci, professeur Al-Bachir Ben Mohamed, de nous avoir accordé cet entretien enthousiasmant. Alors, je vous dis à bientôt pour nous annoncer, on l'espère, la mise sur le marché du vaccin universel. Bonne journée à vous.
Allez, au revoir. Merci.
Au revoir. Quel
merci,
parcours, hein.
Mais surtout, quelle promesse. Le parcours, très beaucoup bien, évidemment, mais aussi, la promesse. Hein, ouais. La promesse, un vaccin universel contre tous les coronavirus. Franchement, après l'année qu'on vient de passer, on prend. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Dans quelques secondes, Marion Calais, un nouveau point sur l'info et Laurent Cabrol pour la météo. À tout de suite. 8h31 sur Europe 1, l'heure de retrouver Marion Calais, un nouveau point sur l'info.
Le coût de la crise sanitaire, des mesures de soutien estimées ce matin à 32 milliards d'euros en 2021 et une dette publique qui s'envole à des niveaux jamais vus depuis l'après-guerre à plus de 115% du PIB selon les derniers chiffres de l'INSEE. Un coût qui risque encore d'être alourdi par les retards pris en matière de vaccination. C'est ce que révèle une étude de l'assureur Crédit Euler Hermès, Olivier Samin.
Oui, 123 milliards d'euros. Voilà ce que va coûter cette année aux pays de l'Union européenne le retard dans le programme de vaccination s'il n'est pas rattrapé. Un retard qui est désormais de 7 semaines par rapport au programme qui avait été fixé. L'objectif, c'était 70% de la population européenne vaccinée d'ici à la fin de l'été. En France, le retard est aussi de 7 semaines. Et s'il n'est pas comblé, le coût pour l'économie atteindra 21 milliards d'euros à la fin de l'année. Chaque semaine de retard, c'est en effet 3 milliards qui s'évaporent. 3 milliards de richesses non produites du fait de l'application prolongée des restrictions sanitaires, du fait aussi du manque de confiance des entreprises qui les conduit à repousser des investissements ou le lancement de nouvelles productions, du fait enfin de l'attentisme des consommateurs qui préfèrent garder leur épargne bien au chaud. Et pendant ce temps-là, d'autres pays, Royaume-Uni, États-Unis, prennent de l'avance. Pour les auteurs de l'étude, ces retards vont nuire à l'efficacité des plans de relance, dont l'objectif, rappelons-le, est de stimuler la reprise économique. Encore faut-il qu'elle pointe le bout de son nez.
La relance qui doit être plus vigoureuse en Europe, investir plus fort et plus vite. Le souhait affiché par Emmanuel Macron hier soir en marge du sommet européen. Le chef de l'État qui a assumé de ne pas avoir reconfiné le pays en janvier dernier et qui ouvre la voie à de nouvelles mesures en cas d'aggravation. Il n'y a à mes yeux aucun tabou, a-t-il dit. C'est un rapport très attendu qui doit être remis aujourd'hui au chef de l'État. Rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Paris accusé notamment d'avoir soutenu le gouvernement génocidaire par le biais d'une opération sur place. Après l'évacuation polémique de novembre dernier, nouvelle occupation hier soir de la place de la République à Paris pour demander l'hébergement de plusieurs centaines de migrants. Opération coup de poing lancée à l'occasion de la Nuit de la Solidarité. Reportage pour Europe 1 de Johanna Chabas.
400 tentes installées en à peine 10 minutes juste avant le couvre-feu. À l'intérieur, des migrants, des familles et des mineurs isolés. Fatoumata est ivoirienne, elle est là avec son mari et sa fille de 9 ans.
On est là pour toute la nuit. Pour avoir une solution pour notre problème, pour que l'enfant y aille à l'école.
L'action est organisée par un collectif d'associations, tout en tête une précédente opération sur cette même place fin novembre, qui s'était terminée par une intervention musclée de la police. Mais même en plein couvre-feu, c'est un risque à prendre pour Jean-Baptiste Hérault, président de l'association Droit au Logement.
En réalité, on ne sait pas comment ça peut se passer. Bon, il y a un moment donné, il faut peser le pour, le contre, et puis il faut y aller. Il y a des gens dehors, donc il faut y aller. On est poussé par les gens qui sont concernés, en fait. Ça fait partie de notre boulot d'intervention. Interpeller le politique à s'occuper des sans-abri, des gens qui souffrent de la crise du logement.
Les préfectures de police et d'Île-de-France ont jugé cette opération irresponsable en pleine crise sanitaire, mais la police n'est pas intervenue. Peu après minuit, la mairie de Paris a promis des hébergements pour toutes les personnes présentes.
France-Écosse, ce soir, 21h, les Bleus qui ont l'occasion de remporter le tournoi Destination. Pour ça, il faudra s'imposer avec au moins 4 essais et 21 points d'écart. Coup d'envoi donc 21h à suivre en direct sur Europe 1.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, merci d'être concis mon cher Mathieu.
À votre service mon cher Laurent.
C'est un front qui arrive, un front pluvieux. Il est scindé en deux. Alors la première partie est sur la Bretagne, la seconde partie est encore en mer. Et vous aurez donc de la pluie, Bretagne, Cotentin, Normandie, région nantaise, Picardie, sur le Poitou et sur les Pays de la Loire. Des pluies qui vont gagner toutes ces régions progressivement dans la journée. Ce soir, sur Paris, il devrait pleuvoir en début de soirée, peut-être pendant le match. Le nord, la Champagne-Ardenne, seront également concernés par la pluie. Partout ailleurs, ce sont des nuages en alternance avec des éclaircies et parfois inondées. Mais enfin, ce n'est pas du mauvais temps dans les autres régions de France que je n'ai pas citées. Demain samedi, il fera beau presque partout. Surtout dans la moitié sud, ce sera très ensoleillé. Sur la moitié nord, un petit peu nuageux. Mais ça va beaucoup mieux. Dimanche, c'est vraiment très très beau temps. Et puis à partir de lundi, ce sont des journées où le ciel sera pratiquement limpide, enfin sera limpide, avec des températures qui vont se situer entre 20 et 22 degrés. Beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est entre 15 et 20 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
8h35, dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Avec un syndrome qui touche 10% des Français, le syndrome des jambes sans repos. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez voir qu'une simple carence en fer peut déclencher la maladie.
Notre planète, c'est avec Fanny Agostini dans la foulée et Nicolas Canteloup pour la revue de presse à 8h45. À tout de suite. 8h37 sur Europe 1.
Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilens, les premières lunettes qui facilitent la lecture pour les personnes dyslexiques.
Nous sommes avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous allons parler d'un syndrome peu connu et pourtant plutôt fréquent. Le syndrome des jambes sans repos. Alors qu'est-ce que c'est? Des jambes qui sont quoi? Obligées de bouger?
Exactement. Alors c'est tout simple, hein. C'est le besoin impérieux de bouger les jambes durant des épisodes de repos ou d'inactivité. Typiquement lorsque vous êtes assis ou allongé, qui vont être améliorés ou disparaître lors du mouvement, comme la marche, et qui surviennent principalement le soir ou la nuit. Et ça peut s'accompagner de sensations désagréables qu'on appelle des impatiences, qui sont des picotements ou des brûlures. Alors il faut distinguer ce syndrome de simples jambes lourdes, dont le repos vont améliorer justement les symptômes. C'est pas si rare que ça, ça concerne 10% de la population, ça peut toucher certains enfants, et on sait que ça augmente avec l'âge, et malheureusement les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes, en particulier pendant la grossesse. On ne sait pas trop l'expliquer. Durant le premier trimestre, elles vont avoir ces symptômes, mais ça va régresser tout seul. Alors que les hommes, finalement, eux, ils s'en sortent un peu mieux.
Il se passe tellement de choses bizarres pendant la grossesse. C'est quand on bouge, par exemple, de la jambe comme ça, là, sous la table, un peu nerveusement.
Alors,
c'est ce genre de choses.
Ça doit survenir en fin de journée.
C'est en fin de journée. Alors, est-ce que c'est si grave que ça, de bouger la jambe, hein, pardon? Est-ce que ça se traite?
Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça n'a pas l'air très embêtant, mais ça va altérer votre sommeil. Et ces personnes vont souffrir notamment d'insomnie, mais aussi d'une qualité de sommeil qui va être médiocre, puisque vous allez avoir de micro-réveils, car malheureusement, ce syndrome va s'accompagner de ce qu'on appelle des mouvements périodiques de jambes. C'est-à-dire que lorsque vous dormez, de façon cyclique, vous avez des petites contractions musculaires, des petits mouvements de jambes qui vont vous réveiller, qui vont fragmenter votre sommeil. Et donc, vous allez moins dormir. Et puis, il y a des choses aussi incroyables. On s'est rendu compte que ces personnes ont deux fois plus de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires que les autres. Ça prouve bien que le sommeil a des pouvoirs extraordinaires sur l'ensemble de notre corps. Alors rassurez-vous, je vous ai dit que c'était quand même pas si fréquent, même si c'est 10% de la population. Il y a souvent une histoire familiale, il y a une prédisposition génétique. Mais aussi, on s'est rendu compte, lorsqu'on faisait des prises de sang, des bilans sanguins, eh bien qu'une carence en fer peut déclencher les symptômes et qu'à l'inverse, le fait de vous supplémenter en fer peut améliorer la maladie. Alors, il existe évidemment des traitements qui sont efficaces, mais avant de vous donner ça, on va vous donner quelques conseils simples, comme surveiller votre sommeil, puisqu'on s'est rendu compte qu'une dette de sommeil va aggraver les symptômes durant la nuit. Éviter l'exercice physique, ça pour vous Mathieu, mais plutôt le soir. On a le droit de faire du sport en journée. Et attention aux excitants comme l'alcool ou le café. Et en règle générale, avec ces petites mesures, les gens ont une bonne qualité de vie.
J'ai retenu, hein, éviter l'exercice physique, alcool et café. C'est ce qu'a dit le docteur. Merci Jimmy Mohamed, blague à part. Dans son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 à 15h tout à l'heure avec Mélanie Gomez, la médecine régénératrice.
Oui, tout à fait. On va prendre soin de vous et vous allez voir qu'on a quelques astuces à vous donner pour prendre soin de votre santé.
C'est à 15h tout à l'heure. Merci Jimmy. Il est 8h40. Notre planète, c'est tous les matins avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous dites que les toilettes sèches pourraient à terme remplacer les toilettes à chasse d'eau. Alors pardon, on ne dit pas les toilettes à chasse d'eau, on dit les toilettes.
Voilà, les toilettes tout court. Je crois que je vais donner le bâton pour me faire battre ce matin avec Antelou derrière. Bon, je fais ce pari sur le long terme, effectivement, que les toilettes sèches vont prendre le dessus sur les toilettes classiques. Il faut dire qu'elles ont été marginalisées, moquées, car associées à une image d'écolo, bobo, crado. Mais je peux vous dire, Mathieu, que les temps changent grâce notamment à des entreprises qui signent aujourd'hui le retour des toilettes sèches version haut de gamme, pensées pour correspondre à nos attentes de confort et d'hygiène. Ce sont des toilettes sèches des temps modernes qui viennent casser l'image négative que nous nous faisons de l'ancienne version rudimentaire et peu ragoûtante. Cette fois, on préserve l'esthétique de nos toilettes habituelles en misant sur le design élégant, mais la différence, c'est qu'effectivement, la chasse d'eau n'existe plus.
Alors du coup, comment fonctionnent ces toilettes sèches nouvelle génération ?
Alors c'est une entreprise baptisée Trobolo qui a eu l'excellente idée de vendre ses toilettes en kit avec les outils fournis. Vous pouvez donc les monter vous-même ou faire appel à l'entreprise pour l'installation. Après je dois dire que ça marche un petit peu en fait comme avec la litière du chat. Une litière repose aussi au fond de vos toilettes pour éviter toutes les odeurs avec un séparateur entre les urines et les selles. Et pour régler cette histoire de chasse d'eau, il n'y a pas de raccordement avec l'eau potable. Donc la seule contrainte, c'est de faire une vidange une fois par semaine. Et pour cela, un caisson étanche collecte la matière matière à destination non pas des égouts, mais de la terre en mode compost. Ces petits coins nouvelle génération sont de plus en plus fréquemment installés en France, même si on manque de statistiques sur le sujet. En Finlande, plus de 500 000 foyers l'ont déjà adopté, contre quelques 8 000 dans l'Hexagone.
Oui, la chasse d'eau, faut peut-être reprendre par là, la chasse d'eau qui est une aberration écologique.
Ben c'est vrai qu'on a normalisé les toilettes à chasse d'eau, mais en vrai, les coûts écologiques et économiques sont inadmissibles. Coûts économiques parce que le traitement des eaux usées représente 50% de notre facture d'eau, et coûts écologiques puisque, ben, tout comme l'eau qui sort de notre robinet, on le sait, celle qui s'évacue dans les toilettes, c'est la même. On mobilise beaucoup d'eau potable inutilement qu'on doit ensuite retraiter. Et pour chaque chasse d'eau tirée, je le précise, c'est entre 6 et 12 litres d'eau qui sont utilisés. Au fur et à mesure que le changement climatique se renforce, que les ressources en eau potable diminuent et que la population mondiale augmente, c'est un système qui a peut-être atteint ses limites et les toilettes sèches pourraient, pour ne pas dire doivent, à nouveau trôner dans nos maisons.
Fanny Agostini, merci beaucoup. 6 à 12 litres d'eau à chaque chasse d'eau. C'est un pack d'eau en fait. C'est un pack d'eau à chaque fois. Merci Fanny Agostini, 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse, Nicolas Canteloup avec Julie qui s'est installée. À tout de suite. 8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, devinez, ben c'est à vous pour le rappel des infos du jour.
Oui, allez. Merci, ma chère Julie. Merci, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. L'info du jour sur Europe 1, ce sont les trois nouveaux départements soumis aux nouvelles restrictions. L'Aube, la Nièvre et le Rhône. Et nous voilà avec...
Ouais, non, écoutez, nous voilà. Ça nous pendait au nez, bu comme Lyon et mal géré, disons-le.
Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, bonjour.
Oui, bonjour. Non, écoutez, franchement, les écologistes ont encore fait n'importe quoi. Ils nous ont demandé de rester chez nous. Hein. Alors qu'Emmanuel Macron l'a dit, c'est aller dehors qu'il fallait faire. Résultat, comme on n'est pas assez sorti, maintenant, eh ben voilà, on est enfermé. Mais si, on est enfermé. La preuve, Madame Fanny Agostini en a parlé ce matin, enfermée peut-être même dans ses toilettes sèches. Non. Si on était sorti un peu plus, mais aujourd'hui, on pourrait sortir un peu plus.
Oh là là.
Oui, j'ai conscience que c'est de la mauvaise foi pure et dure, oui, et que personne n'y comprend rien. Mais bon, avouez que ce serait dommage de gâcher avec un gueux une occasion de taper sur les écologistes. Écolo, bobo, crado.
Mathieu, une autre info peut-être? Hein, Mathieu?
Mathieu?
Il y avait encore du
Béliard. Ah non, on n'est pas sur la même version. Attendez, Alors, oui, pardon. Oui, l'autre info, oui, c'était Emmanuel Macron qui était intervenu. Oui, pardon, j'étais sur la version 3. Parce que vous savez, ça bouge beaucoup.
C'est vraiment le vrai. Hein,
c'est vraiment. Non, parce que ça bouge beaucoup. Hein, vous savez, le matin à l'écriture, ça bouge de partout. On est l'Institut Pasteur de l'écriture, vous ne vous rendez pas compte. Bachir Mohamed fait des recherches avec nous, même sur les nouveaux textes. Alors, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui était intervenu hier soir à 22h30. 22h30, on réécoute cette intervention.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Voilà, et Emmanuel Macron, donc, qui nous a expliqué qu'il n'avait pas de mea culpa à faire. Aucun remords et qu'il avait eu raison de ne pas reconfiner en janvier. On a tous un ex comme ça, voilà. Jamais rien à se reprocher. Enfin, voilà. Emmanuel Macron, oui, c'est du vécu. Emmanuel Macron fait maintenant des allocutions pour nous dire qu'il est formidable. Une intervention d'autant plus surprenante que la veille, il avait dit en interview sur les vaccins, on n'y a pas cru, on a manqué de folie.
Non mais écoutez, monsieur Béliard, oui, je pensais qu'on aurait franchement un vaccin dans ces délais, mais c'est parce que j'ai pensé français. Et au niveau de notre pays, d'ailleurs j'ai eu raison, regardez Sanofi, regardez l'Institut Pasteur, ils se sont plantés. Bon, ça, je l'avais anticipé correctement, nous sommes d'accord. Non, ce que je n'avais pas vu, c'est que les autres pays n'étaient, eux, pas peuplés de Français qui foirent tout. Du coup, ils vont plus vite. C'est ça leur truc, c'est qu'il n'y a pas de Français dans les autres pays, du coup ça va plus vite.
Merci Monsieur le Président. Allez, on va revenir sur les nouveaux départements qui basculent, hein, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, qui vont donc connaître de nouvelles restrictions. Bonjour Monsieur le Premier Ministre.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard. Bonjour à papier mamie, bonjour à monsieur Crabrol et papier mamie qui vont connaître les joies des nouvelles restrictions. Vive. Ah si, non, ne me regardez pas comme ça. Les joies, tous les Parisiens vous le diront, c'est moins pire qu'avant.
Les chiffres de ces trois départements sont alarmants.
Exactement. Mais vous savez, la Nièvre, dans l'Aube, on les connaît, vous savez.
Quoi ?
On le sait, hein ? Regardez-moi dans les yeux, Madame Julie. On le sait, dans la Nièvre, dans l'Aube, ce sont des foufous. Voilà, la Nièvre, ben si, alors, on va pas se mentir, la Nièvre, c'est un peu le Las Vegas français. Hein. Ah, mais c'est une terre, vous n'êtes jamais allé dans la Nièvre. Ah, mais c'est une terre d'excès, de décadence, de fiesta. Non, les Espagnols ont Ibiza, nous avons Château Chinon. Il fallait en amont complètement canaliser beaucoup plus tous ces déglingos de la Nièvre.
Sinon, vous avez exposé votre future stratégie devant le Sénat.
Devant le Sénat, oui. Donc, y compris devant une population quasi toute vaccinée, vu qu'ils sont vieux et tous en comorbidité.
Oui, bon, ben ça va, et vous avez prévenu le Sénat que le gouvernement pourrait durcir la stratégie.
Vivi. Redites-le, parce que les gens n'ont pas compris. Déjà, que quand on le dit normalement, on ne comprend pas. Si en plus, vous le prononcez mal, c'est compliqué.
Le gouvernement pourrait durcir la stratégie.
Voilà. C'est fou. On peut encore, donc, que les gens comprennent. On peut encore serrer la vis. Vous avez cru qu'on était à fond ? Eh bien non. Il reste encore 2-3 tours. Voilà, c'est un peu la magie de ce Covid, de cette Covid, devrais-je dire. On croit qu'on a passé une semaine pourrie, disons les mots, et la semaine suivante, on se rend compte que non, parce que c'est toujours pire après. Donc, profitez vraiment de cette semaine. Elle est sûrement géniale par rapport à ce qui nous attend. Hein ? Kiffer la vie avant qu'on vous la gâche.
Eh ben c'est gay.
Ça c'est un beau slogan.
Oh oui, d'accord.
Kiffer la vie avant qu'on vous la gâche.
Ah, moi je préférais dedans, citoyen dehors, etc.
Allez,
merci monsieur le Premier ministre. Xavier Bertrand s'est donc déclaré candidat à la présidentielle de 2022. Bonjour monsieur Bertrand. Oh là là, ça va être un peu théâtral.
Waouh.
Bonjour Mme Julie, Monsieur Béliard. Oui, je suis heureux d'être sur votre antenne pour cette grande annonce que j'ai longtemps répétée. Alors, la candidature, acte 1, scène 1. Oh rage ! Oh désespoir ! Oh Macron's ennemis !
Non, merci, vous n'allez pas faire toute la tirade. Hein. Donc, vous pensez avoir vos chances, vous, en 2022 ?
Oui, je le pense. Sinon, je ne me présenterai pas.
C'est
oui,
sûr.
Je peux gagner.
Non, mais pardon, excusez-moi, mais Xavier, quoi que tu fais là ? Pardon, monsieur Béliard, excusez-moi, ma pyjama, désolé, je m'immisce, mais j'adore m'immisquer. Xavier, quoi que tu fais là ? Tu fais même plus partie des Républicains, t'as pas de parti, t'as pas de soutien, t'as même pas de procès en cours, même pas de casier judiciaire, mais il est où ton ADN de la droite à toi ?
Enfin bon, c'est pas un mal qu'il n'ait pas de procès hein, en même temps.
Écoutez, maman pyjamas, de quoi qu'ils ont besoin nos électeurs ? Ils ont besoin de repères, Hein ? Et puis c'est quoi son métier à Xavier ? Hein ? Assureur. Après une pandémie, on va voter pour un assureur ? Non, mais quand on voit comment ils nous arnaquent, les assureurs, je serais vous, je me méfierais. Hein. Regardez comment ils remboursent les restaurateurs, les assureurs. Mais franchement, avec un petit gros avec une tête d'assurance. Hein. Tête, hein. Hollande vous a pas suffi ? Non. Vous voulez vraiment reprendre pour 5 ans ?
En tout cas, Xavier Bertrand, il a confiance. Hein. Il se voit déjà au second tour.
Ah ben Jean Lassalle aussi, hein, ils vont au second tour. C'est pas forcément un critère, Mme Julie. Je vois que vous êtes une observatrice politique, encore en apprentissage.
Eh bien alors, qu'il en soit ainsi, je serai au second tour face à Jean Lassalle.
Oula.
Oui, excusez-moi de...
Oui, M. le Président, allez-y.
Mais, oui, c'est bien que vous annonciez le nom des personnages, moi je suis tellement médiocre. Pardon, mais je vous entendais
mais
discuter
là. Mais ça
fait
plus vivant, arrêtez. Oh.
Je vous entends discuter, Mme Julie. Pour ma succession, on part sur un second tour. Donc Jean Lassalle contre Xavier Bertrand.
Top chef, on part sur un second tour.
Ah oui. Donc ça sert à rien, même plus à rien que je me représente. Je vais Écoutez, je vais appeler Marine Le Pen, on va aller se mettre sur les bords de Marne avec un fauteuil pliant, un petit chapeau et une canne à pêche. Hein.
Bon, bah, merci à tous.
C'est plié, c'est plié.
C'est plié, oui. Allez, pour terminer cette info, le gouvernement veut ouvrir 35 vaccinodromes. Concrètement, comment l'État s'organise-t-il? Comment il organise la vaccination? On va se rendre au vaccinodrome du stade Vélodrome de Marseille avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson.
Oui, oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, Martin Langella également. Bonjour à tous, Laurent Cabrol. Philippe Mandel est très attendu et bienvenue au stade Vélodrome de Marseille pour cette 13e journée du championnat de France de vaccination au vaccinodrome régional. Les concurrents aujourd'hui jouent dans la catégorie résident d'EHPAD de moins de 44 kilos et de plus de 91 ans. Ils sont actuellement sous nos yeux sur la ligne de départ. Nous sommes en radio, donc vous ne voyez pas, mais je peux. Non, bien sûr, vous laissez imaginer la scène. La compétition va bientôt commencer. L'arbitre regarde à l'instant son chronomètre. Et c'est parti! C'est parti et c'est Marceline, 93 ans, qui prend la tête. Elle veut être la première, c'est évident. Mais Raymond, Caramagnol, 91 ans, plus fringant, essaye de la dépasser en se positionnant à la corde. Là. Il a le déambulateur bondissant, disons-le, alors que Jean-Charles, 94 ans, revient du diable mauvais. Regardez cette pointe de vitesse qui, oh là là, il est chronométré à 0,0004 décimètres à l'heure. Oh là 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 là, on dirait que Micheline a un problème. Oh là là, c'est, oh non, qu'est-ce que c'est triste, après tant de préparation. L'effort était peut-être trop intense pour Micheline. Va-t-elle se relever? On espère en tout cas. Si elle ne peut pas, on aura gagné une dose pour un autre concurrent. Rendez-vous dans 6h30 pour assister à la fin de la course qui fait, je vous le rappelle, 11 mètres 70 précises de la salle d'attente à la salle d'injection. À vous les studios, à vous Julie.
Nicolas Canteleu et Julie, bravo. La revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivien, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas, bien sûr. 8h56. Philippe Mandel nous a rejoint au studio Culture Média de 9h à 11h. La matinée continue sur Europe 1.
Mais oui, bonjour, bonjour Mathieu. Je vais faire fast parce que notre info média du jour s'intéresse à Madame Figaro Slow. C'est un nouveau hors-série consacré non pas au slow, mais à la question écolo. Comment mieux consommer, moins acheter, mieux manger, moins polluer? Toutes ces questions auxquelles le numéro tente de répondre. On sera avec Laura Pelloir, l'éditrice adjointe du magazine. Au sommaire également, vous en avez parlé, ce soir c'est le rugby.
On en a un peu parlé, oui, c'est vrai. On va gagner.
Et ce soir,
avec 21 points d'écart et 4 essais, on va gagner.
Exactement, c'est ce que va nous raconter, mais beaucoup d'autres choses encore. Mathieu Lartaud et la journaliste Cécile Grès, c'est elle qui est au bord du terrain. Et c'est aussi un enjeu média parce que ce soir, France 2 risque de battre TF1 et Koh-Lanta. Ils avaient déjà battu quand les matchs étaient le samedi, The Voice. Et puis elle a mis des paillettes dans notre vie, si on en croit sa fameuse expression. C'est l'humoriste Inès Rey qui sera avec nous, avec son partenaire Kevin Debonne. Ils sortent un film aujourd'hui, ça s'appelle Je te veux, moi non plus, titre gainsbourgien.
Bon, vous avez entendu, à 7h40, moi j'avais parié sur Faust à l'Opéra Bastille pour battre Koh-Lanta, mais peut-être non. Que le rugby fera mieux. C'est Philippe Mandel, Culture Média, 9h-11h. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi, dimanche à 10h. Notez-le, le grand rendez-vous, Xavier Bertrand au micro de Mickaël Darmon, bien sûr. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.